c'est Amina Kellage, bienvenue sur Radio Agora. Les discriminations sont à l'origine des conflits et des manifestations de violence qui perdurent sans relâche dans le monde entier, en particulier à l'encontre des femmes et des filles. La période de crise économique et sanitaire a accentué les inégalités, des inégalités d'ailleurs qui s'accumulent et marginalisent les personnes qui y sont confrontées. Aujourd'hui, notre émission s'inscrit dans la 9e édition du Printemps de l'égalité, différente, différents mais égaux, agir pour en finir avec les discriminations. Nanterre est engagée depuis plusieurs années dans le combat contre les discriminations et pour l'égalité des droits. Qu'en est-il de ces combats aujourd'hui? Quel a été le chemin parcouru depuis les premières luttes dans les années 60? En 2020, comment combattre les inégalités? Autant de questions auxquelles nous allons répondre à l'occasion de cette émission. Vous découvrirez également des interviews engagées et originales réalisées par la compagnie Canopée, portée par Adèle France. Au micro de l'artiste clownesse Amélia Bréchet, plusieurs Nantériens se sont confiés sur les questions liées aux discriminations. Des pastilles sonores touchantes et percutantes à découvrir au fil de l'émission.
Moi aussi j'ai vécu ça, je suis pas folle. C'est pas moi le problème, tu vois. Quand le même problème se reproduit auprès de plein de personnes différentes.
Et du coup tu politises le problème.
C'est ça, mais l'intime devient politique de toute façon.
M'empêcher d'imaginer ça parce qu'en fait c'est pas réaliste. Mourad ne peut pas finir à Hollywood dans cette histoire là parce que c'est pas crédible.
Le seul truc que je voulais c'était d'avoir un endroit juste pour dormir et le lendemain que tu puisses faire tes démarches administratives.
Je correspondais pas à ces modèles, j'avais des complexes énormes au niveau de mon corps.
Non, on me dit arrête de faire la féministe maintenant.
Là il se trouve que j'ai la double, la triple image voilà, d'être une femme handicapée issue d'une immigration.
Faut construire une maison et en fait on est tous ensemble et on essaie de s'entraider.
Ça t'est arrivé ça, tu es arrivé à 3h du matin
ouais, avoir presque
et pourquoi tu arrives à 3h du matin?
Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine.
Qu'on ouvre les frontières, les portes, les musées, les écoles, et qu'on puisse enfin être libre de ce qu'on a envie de faire et d'envie d'être ce qu'on a envie d'être.
Et justement sur le plateau avec nous, Patrick Jarry, maire de Nanterre, Nadège Magnon, conseillère municipale en charge de la Ligue contre les discriminations, au téléphone Sylvie Sanchez, directrice artistique de Creative Handicap, Joseph Ridolfi, président du centre socioculturel La Traverse, Leslie Braga, assistante sociale à l'association Femmes en difficulté à FED 92, et Christopher Armstrong, trésorier de la section nantérienne de la Ligue des droits de l'homme.
J'ai pas d'interlocuteur, j'ai pas de référent, j'ai pas de cellule de crise ou un espace accueil pour eux. C'est que des mails, voilà, une machine, j'écris avec une machine, on me répond avec une machine.
En attendant de joindre votre correspondant, nous vous invitons à patienter quelques instants en musique. Nous allons donner suite à votre appel. Votre correspondant est prêt. Nous allons donner suite à votre appel. Merci. Nous remercions de votre appel. Nos bureaux sont actuellement.
Merci d'avoir patienté. Du coup, monsieur le maire, cette émission s'inscrit justement dans le cadre du Printemps de l'égalité, festival de lutte contre toutes les discriminations. Pourquoi cette attention aux questions de discrimination à Nanterre ?
D'abord, c'est Nanterre en lutte contre toutes les discriminations. Quand on dit Nanterre, c'est à la fois une collectivité territoriale, une commune, mais c'est aussi des habitants, des acteurs, des associations, des syndicats, des forces politiques. Donc c'est cette idée, c'est un peu un appel, une mobilisation à ce que tout Nanterre se mobilise en ce moment particulier contre toutes les discriminations. Alors contre toutes les discriminations ici, à Nanterre, en France, mais évidemment ça participe d'un combat planétaire contre toutes les discriminations. C'est donc lié à la manière dont, je pense, une ville comme Nanterre se voit dans une métropole comme celle de Paris et qu'elle se voit dans son rapport au monde, dans son rapport aux gens. C'est pas, évidemment, simplement en rapport à la situation de Nanterre. C'est, C'est parce qu'on pense que cette question de la lutte contre les discriminations est une question d'ampleur qui nécessite d'un combat de tous les jours, de tous les instants, et sans doute une lutte qui est aussi vieille que l'humanité.
Et donc justement, Nanterre n'est pas une ville qui est particulièrement touchée par les discriminations.
C'est sûr que quand on est une ville de banlieue, une ville de la périphérie, une ville populaire, c'est sûr qu'on doit compter dans cette ville plus de gens victimes des discriminations que dans une ville de l'entre-soi où on est avec où ne vivent que les gens qui sont dans les couches supérieures de la population. J'ai envie de dire en plus, Nanterre, dans son histoire, je dis souvent, Nanterre est une ville qui a été construite par les migrants, par les immigrés, ceux venus de l'intérieur de la France, de Bretagne ou du centre de la France, ceux venus du sud de l'Europe, du Portugal, d'Espagne, d'Italie, ceux venus du Maghreb, ceux venus du Maroc, ceux venus des territoires d'outre-mer, ceux venus d'Asie, etc., etc. Donc, oui, elle s'est forgée comme une ville dans laquelle la question de l'accès à tous les droits, de tous et de toutes à tous les droits, est au cœur de son histoire, de ce qu'elle est, et sans doute de la manière dont elle est aussi regardée dans l'espace métropolitain et en France. Je pense que quand on parle de Nanterre, on ne parle pas de n'importe quelle ville, on parle de cette ville avec cette histoire. Donc, évidemment, on pense que dans un sujet comme celui-là, on doit prendre notre part dans la lutte et dans l'histoire.
Merci. Et Madame Magnon, vous êtes la conseillère municipale en charge de la lutte contre les discriminations. De quelles discriminations souffrent les Nanterriennes et les Nanterriens aujourd'hui ?
Alors ça, c'est une vaste question parce que malheureusement, la liste des souffrances liées aux discriminations est très longue. Les Nanterriennes, les Nanterriens souffrent de discriminations liées à leur sexe, à leur origine, à leur âge, à leur handicap, à la religion, à l'orientation sexuelle, à l'état de santé, à l'activité syndicale, à l'apparence physique, etc., etc. Je fais pas toute la liste de tout ce qui est possible de souffrir comme discrimination, mais je voulais quand même marquer le fait que malheureusement le risque de souffrir de discrimination est important parce que la liste est longue. Et en plus de ça, beaucoup ou un certain nombre de Nanterriens multiplient les facteurs de discrimination et souffrent de plusieurs en fait types de discrimination quand on est une femme. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure dans la capsule, quand on est une femme qui a un handicap, qui a une origine qui vient d'ailleurs, on multiplie les discriminations. Donc,
Et justement, quelles sont les conséquences sur la définition des politiques municipales ?
Alors, nos politiques municipales sont... Patrick Jarry le disait très bien, c'est-à-dire que notre ville, c'est aussi construite et les politiques municipales ont été construites par l'idée d'aider au maximum les gens qui habitent Nanterre et donc avec toutes leurs différences. Et effectivement, quand on est une ville qui accueille des gens aussi différents, parce que notre ville, c'est d'abord la mixité, c'est la différence, on est nos politiques sont adaptées à ces différentes populations et en fonction des besoins qu'ils ont, donc que ce soit en termes d'emploi ou si nous soutenons une maison de l'emploi et de la formation, c'est pour aider tout le monde à essayer d'avoir accès à des emplois et particulièrement les jeunes, par exemple. Mais c'est aussi la mission handicap pour tenir compte des personnes qui souffrent de handicap. C'est ce que nous voulons faire avec ce mandat, la maison des femmes, etc., etc. Il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en place, notamment le CCAS est là pour essayer de pallier au maximum un certain nombre de difficultés auxquelles sont confrontés les Nantériens et Nantériennes.
Très bien, merci.
Au lieu de se taire ou de ne rien dire, j'étais du genre à le dire, à le crier, à le manifester d'une manière ou d'une autre.
Des choses que je refusais de croire puisque ce n'était pas ma réalité.
Avec des amis, ce qu'on faisait, on marchait jusqu'au petit matin parce qu'il faisait froid, tu ne pouvais pas dormir dehors et on ne connaissait pas. Et donc on s'est dit, plus tu bouges, plus tu as moins froid.
Et si on met l'accent sur ce qui rassemble les gens, sur ce qui les réunit, les valeurs communes, les centres d'intérêt communs, les désirs communs, les appétits communs, les envies communes.
Moi, je trouve qu'il y a une responsabilité de l'État qu'il faut faire entendre.
Le système fait que toutes ces discriminations existent. Le but est de les garder. Ah, t'habites Nanterre ? Ah oui, quand même. Tes parents parlent bien français, Nadia. C'est pour ça que t'es bonne élève.
En fait, il faut rêver. Si tu te bloques dès le début, c'est mort, t'iras nulle part. Rêve. T'inquiète pas, tu vas aller au bout de ce que tu veux.
Je suis une optimiste acharnée. Et donc, je me dis que demain sera plus bleu qu'aujourd'hui.
Et je pense que c'est là, je me souligne dans tous les corps pour danser.
Des mots qui giflent, des mots qui blessent et freinent ton élan. Te renvoie à ta place et te rappelle que tu n'es rien. Un être inférieur à dompter fermement. Rabaisser constamment, faire de toi un perdant. Paraît qu'on en fait des tonnes, qu'on devrait s'excuser de s'être opposé à leur discours décomplexé. Rien n'est convenable, tout est à bannir quand ils nous salissent sur la place publique.
Justement, pour paraphraser cet artiste, rien n'est convenable, tout est à bannir dans les discriminations. Et qu'est-ce qu'une discrimination ? On y répond tout de suite avec Madame Sanchez.
Bonjour. Donc, pour nous, en fait, pour Créative Handicap, il y a une petite définition simple qui est, c'est simplement de traiter quelqu'un différemment d'une autre personne à cause de sa différence. Donc, voilà. Après, la différence, elle est la différence, la norme, etc. Donc, c'est une définition simple de la discrimination. Voilà.
Oui, donc, c'est une inégalité et un refus, justement, d'accès à des droits parfois fondamentaux.
Oui, mais après, à partir du moment où on dit simplement que je n'accepte pas l'autre par rapport à sa différence, on a tout dit quand on parle de discrimination. Après, on a tous les thèmes qui sont le handicap, la couleur de peau, la religion, etc. Donc c'est quelqu'un qu'on n'accepte pas face à la norme d'un groupe. Voilà.
Merci. Madame Braga, vous qui travaillez justement dans une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences, à quel constat cette expérience professionnelle vous conduit-elle en termes de discrimination des femmes ?
Nous, on s'est rendu compte, comme ce qui a déjà été dit, c'est que les femmes, et notamment les femmes victimes de violences, elles subissent plusieurs discriminations en même temps. Le fait d'être femme, d'être victime de violences, mais vient s'ajouter des discriminations en lien avec le logement, l'hébergement, l'accès aux droits, l'accès aux papiers, et moi, ce que j'appelle aussi des discriminations administratives. Mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Je développerai un petit peu cette partie-là sur les discriminations administratives qu'on n'entend jamais parler.
Oui, complètement. Et justement, est-ce que vous voyez aussi un lien, vu qu'on est dans les discriminations multifactorielles, entre violence conjugale et inégalité entre hommes-femmes ?
Oui, bien sûr, il y a forcément un lien, puisque les femmes victimes de violences subissent aussi des violences parce qu'elles sont femmes. Et souvent, elles n'ont pas accès, comme je le disais, des fois au papier, l'accès aux droits, etc. Du coup, le fait des violences, elles subissent aussi d'autant plus les discriminations.
Merci.
J'ai perdu mon père, il y a une cérémonie, on se couvre la tête par respect. Et j'ai dit, si je l'enlève là, je ne le mettrai plus jamais. Donc je ne l'ai plus enlevé. Après le décès, je n'ai pas enlevé mon voile. Donc depuis 2020, je porte le voile. Donc ça veut dire que mon père m'a connue sans voile. Et des fois, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qu'il dirait s'il me voyait aujourd'hui? Parce que ça pourrait être un frein pour toi, pour évoluer. Parce que mon père, il me disait, voilà, l'école, attention. Mais je pense qu'il serait fier quand même. Ça me dérange quand on dit, oui, vous ne vous rendez pas compte, les femmes voilées, indirectement, ils veulent affirmer qui ils sont et ils veulent islamiser la société. Mais j'en ai rien à faire, moi, que tu sois musulmane, tu pries ou tu pries pas, que tu boives pas, que tu... Je m'en fiche. Dans mon voile, c'est pas... Et du coup, même, vous me mettez dans une situation difficile, parce que moi, c'est pas mon projet. Vous parlez de moi comme si c'était mon projet. Et du coup, vous me mettez des gens à dos avec qui je pourrais faire des belles choses, avec qui je pourrais échanger, partager, m'amuser. Et à cause de ce que vous dites de moi, parce que vous me connaissez pas, parce que c'est ce que vous avez envie de croire, vous me mettez une partie de la société à dos.
Au fil du temps, on se rend compte qu'on a beau vouloir faire, on a beau essayer de rentrer dans tu vois, ce discours de l'intégration, voire même l'assimilation pour certains, à gommer nos différences, à essayer à avoir presque honte, tu vois, de nos origines, de nos cultures. Même quand on joue ce jeu-là et qu'on va jusqu'au bout, qu'on passe des diplômes, etc., qu'on fait des études, qu'on se comporte bien, tout ce que vous voulez, à la fin, on a quand même ces discriminations, qu'on le veuille ou non, parce que c'est toute une mentalité aussi et tout un système qui ne va pas s'effondrer juste parce qu'on aurait fait de grandes études. Et déjà, il faut y arriver, en fait, à ces grandes études.
Une des choses qu'on a remarquées aux États-Unis, c'est qu'à New York, parler espagnol était très bien vu, que ce n'est pas le cas de l'arabe. L'arabe en France a toujours posé question. Il y a toujours à interroger, il y a même des levées de boucliers dès qu'on commence à vouloir mettre l'arabe comme langue dans les quartiers populaires. Il y a une levée de boucliers en disant pourquoi est-ce qu'on va apprendre l'arabe, c'est-à-dire ces gens-là ils vont aller lire le Coran et alors donc, après on aura plus d'islamistes, qui est tout le contraire, c'est-à-dire plus on connaît des choses, plus on est libre et plus on s'est fait son propre opinion. Et comme dans tous les livres saints, il y a mille versions de comprendre et un livre, parce que justement il est fait de cette manière-là, pour pouvoir avoir des interprétations et se l'approprier d'une certaine manière.
Depuis tout à l'heure, en fait, on entend des petites capsules. Je voulais un peu revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, d'entendre aussi ces témoignages, et parce qu'il y en a qui sont assez forts quand même.
De toute façon, c'est indispensable aujourd'hui de laisser parler les gens, puisque ça fait interroger aussi les autres. C'est-à-dire que si ces personnes-là ne prennent pas la parole et n'interpellent pas les personnes justement qui discriminent, ça ne permettra jamais l'échange et le débat et de faire progresser tous ces gens qui pensent discrimination, quoi. Donc c'est justement... Laisser parler les gens qui vivent ces discriminations, c'est aussi, faire sortir d'eux-mêmes ce qu'ils vivent et un peu interpeller la société.
Oui, parce que du coup, Monsieur Ridolfi, vous présidez un centre socio-culturel et une partie de votre activité consiste à favoriser justement l'accès des habitants du quartier à leurs droits. Qu'est-ce que vous constatez dans votre quotidien ?
Alors, je vais juste corriger, je suis président de l'association Université qui gère et qui anime le centre social et culturel La Traverse, ouais. Ce qui est différent. Ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que l'utilité des centres sociaux et culturels, c'est que dans leur valeur, dans la valeur que dans l'ADN des centres sociaux, on ne juge personne. Tout le monde rentre avec ces différences. Et justement, ces différences, c'est la richesse. C'est la richesse des personnes, mais c'est aussi la richesse de notre société. Et donc, nous, quand on accueille une personne, on la reçoit dans son intégralité, avec toute sa personnalité, avec tout ce qu'elle représente. Et donc, évidemment, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est les différentes discriminations qu'elles peuvent vivre, ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on en a parlé initialement, enfin tout le monde l'a dit. Nadège déployait une liste qui est non exhaustive, mais évidemment on va traiter ces gens-là d'abord par l'accueil, c'est-à-dire un accueil inclusive. C'est par d'abord l'identité de la personne et non pas par quoi que ce soit, quoi. Et à partir de là, on va travailler avec elle sur toutes les formes de discrimination qu'elle subit pour pouvoir l'informer, l'accompagner, ouvrir des droits, et puis évidemment la conseiller.
Et justement, à quel droit est-ce que les habitants que vous rencontrez ont-ils du mal à avoir accès ?
Tous les droits, je veux dire, les droits d'ouverture à la CAF, les droits au logement, les droits, enfin toutes formes de droits, malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que par les choix politiques qui ont été faits, non pas dans le cadre de la crise sanitaire uniquement, mais dans le cadre bien de choix qui ont été faits avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, on parle de rupture numérique, mais la rupture numérique, c'est vraiment un fléau aujourd'hui pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est-à-dire que on s'aperçoit aujourd'hui que pour raisons économiques, les gens ne peuvent pas avoir d'ordinateur. Comme ils ne peuvent pas avoir d'ordinateur, ils ne peuvent pas ouvrir leurs droits, ils ne peuvent pas suivre leurs droits, ils ne peuvent pas consulter, etc., etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on laisse un nombre considérable de citoyens, de personnes, à la marge, parce que on a fait des choix politiques qui ne vont pas en direction de l'humain, mais en direction de l'économique.
D'accord. Monsieur Armstrong, vous êtes le trésorier de la Ligue des droits de l'homme à Nanterre. Est-ce qu'on peut considérer que le racisme, aujourd'hui, doit être traité par le prisme de la laïcité ?
Je pense que l'excrimination, en fait, ne doit pas être traitée par une personne, par une institution, mais il doit être traité par tout le monde, par chacun d'entre nous, par tous les citoyens français qui soient, parce que c'est une question qui est universelle, en fait. C'est pas un terme, c'est pas un domaine qui, justement, est donné par une seule ou une institution qui est spécialisée pour traiter ce sujet-là, en fait. La discrimination, on est tous touchés, qu'on soit l'auteur ou même la victime. C'est la discrimination, c'est quelque chose qui impacte tout le monde et ça impacte aussi pas seulement les personnes, mais ça peut aussi la société. Car comme nous avons vu et d'ailleurs on a entendu dans la capsule, la discrimination, elle prend toutes ses formes et c'est ça qui est, comment dire, quelque chose qui est dur à combattre, mais aussi que justement nous devons lutter contre ça. C'est que c'est parfois ces discriminations et parfois, comment dire, invisibles. Il y a comme du sujet, des thèmes qu'on connaît pas, qui est caché parce que soit il est tabou, soit justement beaucoup de gens l'ignorent cela, ou alors tout simplement parce que, on va dire entre guillemets, et de naître ces discriminations-là. C'est vraiment quelque chose que nous devons lutter contre ça. Ce n'est pas quelque chose qui doit être traité par une seule personne ou par une seule institution. C'est vraiment quelque chose que tout le monde, chacun d'entre nous, toutes les associations, que nous devons lutter contre ça. Et justement, c'est possible. En terminant avec ce qui est sûrement un fléau, parce que c'est quelque chose qui, c'est vraiment la forme de la justice la plus grande qui soit.
Et justement, en termes de discrimination raciale, qu'est-ce que vous constatez le plus au sein de la Ligue, dans vos actions militantes
Ça c'est difficile parce qu'on a plusieurs causes, mais j'irais, celui qui vient à l'esprit à l'instant, c'est faire valoir leurs droits. C'est surtout les personnes d'origine étrangère ou même qui sont pas issues de la société française, et les femmes qui justement n'ont pas l'accès à l'information sur leurs droits ou même comment faire valoir leurs droits. Tout simplement parce que soit ils ont peur des représailles par rapport à la personne qui les oppresse. Par exemple, ça peut être le cas pour les femmes qui justement ils ont peur de leur mari ou de leur conjoint. Ils ont peur de porter plainte, de peur que justement, puissent subir des violences, ou que justement, pas pour elles, mais aussi qu'ils puissent subir des violences envers leurs proches, des pressions. Mais aussi, c'est assez dur de dire ça, parce que je suis moi-même fils de policier. C'est une policière. Il y a souvent des commissariats, et les policiers refusent de prendre plainte, ou alors prennent des plaintes. Mais ils règlent ça aussi rapidement qu'un déjeuner. Parce que tout simplement, soit ils ne savent pas la traiter, malheureusement, soit tout simplement ils estiment que celle-ci n'est pas importante et qu'ils vont la reporter à notre équipe, ou alors peut-être plus tard justement. Et c'est ça que nous justement, dans notre association, on essaie de faire ça justement. On essaie justement d'accompagner, de suivre les personnes juridiquement, de faire voir leurs droits, de faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur, que justement c'est dans leur droit justement de courir une action en justice ou d'entamer les procédures qu'il faut pour justement obtenir ce qu'ils ont besoin et ce qui est aussi de leur droit aussi. Hein.
Et juste pour vous dire par rapport à ce que vous disiez, il y a quand même 1,1 million de personnes qui ont dit avoir été victimes d'au moins d'une atteinte à caractère raciste en France, ce qui est plus de 38% par rapport à l'année 2019, et par rapport aussi aux violences faites aux femmes, ça a été multiplié seulement en termes d'appels, hein, multiplié par 3. Donc on se rend compte que par rapport aux années précédentes, c'est... Il y a quand même une impression d'avoir un peu régressé. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Même, est-ce que vous le voyez, vous, au sein de la ville de Nanterre ou ailleurs ?
Ouais, après, est-ce qu'on a... bon, il y a les chiffres des enquêtes, des études, etc., qui témoignent. Donc on ne sait pas, d'ailleurs dans votre propos, si on fait référence parce qu'on a vécu une année particulière liée au Covid et donc au fait que donc on était un peu dans une situation de confinement, tout ça qui a aggravé les relations entre les gens. Ou bon, ce qui est souvent constaté, c'est que généralement, quand les crises sociales s'aggravent, le racisme monte, la discrimination à l'égard des femmes augmente, et l'ensemble des discriminations. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène mécanique, mais évidemment, c'est quand même plus dans les phases de mobilisation sociale, populaire, dans les moments de conquête sociale, etc., que les discriminations reculent. Donc c'est sûr qu'on est on est sans doute pas dans un moment historique. Enfin, je pense au contraire, on est dans un moment historique où il faut une extrême vigilance et une extrême mobilisation de tous ceux qui veulent qui comme nous ici autour de ces micros pensent que la question des discriminations n'est évidemment pas acceptable et que toutes les discriminations doivent reculer et donc doivent faire l'objet de dispositions, de mesures, d'actions qui les fassent reculer. C'est sûr que nous sommes dans un moment comme ça. À cela, il faut ajouter évidemment les discours politiques, idéologiques, qui entretiennent et qui donc amplifient ces phénomènes. Hein. Il n'y a pas, les contextes comme ça, ils se créent pas tout seuls. Et on voit bien que il y a aussi des propos, des discours, des choses qui sont faites, répandues, qui peut-être contribue à la détérioration. Mais je pense que pour nous, aujourd'hui, pour les jeunes générations, nous sommes dans un moment où, je pense, la mobilisation de tous, de toutes, est nécessaire pour, entre guillemets, pour ne pas régresser et pour, au contraire, conquérir de nouveaux droits, ouvrir plus largement la porte des droits à toutes et à tous. Voilà, on est à ce moment-là. Ça n'a jamais été facile, hein, puisque dans l'histoire, par exemple, si on prend celle de la discrimination femmes-hommes, de l'égalité hommes-femmes, sans les combats qui ont été menés tout au long de ces décennies, notamment par les femmes, hein, d'abord par les femmes, puis avec tous ceux qui voulaient soutenir. Évidemment, toute une série de droits qui sont aujourd'hui n'existeraient pas. Et on voit bien d'ailleurs que dans certains pays, même, il y a des volontés de revenir dessus. Donc, Ça a toujours été nécessaire, mais il y a des moments de l'histoire, des moments dans les sociétés où, évidemment, la vigilance, la mobilisation est encore plus importante, doit être encore plus importante. Voilà. Et c'est aussi, on est aussi, je pense, c'est aussi intéressant de voir dans la situation présente aussi, notamment des milliers, des dizaines de milliers de femmes, d'hommes, de jeunes, de gens de toutes horizons de se mobiliser. Et nous, Nanterre, on veut être dans ce courant-là. On veut, voilà, on pense que c'est aussi un appel à notre population, à tous ceux qui sont les acteurs de Nanterre, à tous ceux qui sont actifs dans cette ville, chacun à sa manière, hein, bien sûr, chacun sur sa préoccupation, etc. Mais en tout cas, de se mobiliser sur cette question-là.
Comme tous les acteurs autour de cette table, finalement. Et du coup, comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir? Et qu'est-ce que reprendre le pouvoir face aux discriminations que l'on vit?
Quand on a répété à la personne que ce n'est pas fait pour elle, ben la personne finit par se dire « non, ce n'est pas fait pour moi ». On se dit « j'ai déjà des difficultés à me mouvoir, j'ai des difficultés à faire des choses, qu'est-ce que je vais aller briguer des choses ?» vouloir abattre des murs et tout ça. C'est une espèce d'auto-censure comme ça, de dire non, pas pour moi.
Tel métier, c'est pas pour moi. Telle passion, telle occupation, telle activité, c'est pas pour quelqu'un comme moi. Je laisse ça aux autres. Et donc en fait, on s'exclut de nous-mêmes avant même que le système ne nous exclue.
Je me suis dit qu'en fait, je me discrimine moi-même, toute seule. Mais pourquoi? Parce que j'ai intégré des modèles. Et comme je ne correspondais pas à ces modèles, j'avais des complexes énormes au niveau de mon corps. Par exemple, j'ai des mollets très musclés. Et je disais, mais c'est quoi? C'est pas une femme, ça. C'est pas des gens d'une femme. Je suis encore complexée, je crois. En plus, il y a la vieillesse qui se rajoute. Et là, oh, tzac. Je te dis, je connais des personnes âgées, ils ont 80 ans. Un jour, je me dis, mais non, on n'est pas des personnes âgées. Hein. Quand est-ce qu'on commence à être une personne âgée? C'est drôle. C'est toujours dans le regard des autres, c'est toujours oui. Relatif.
Quand je disais qu'on intériorisait aussi beaucoup de choses par rapport à ce que la société, de manière très implicite ou parfois même explicite, nous dit de faire, enfin, toutes les injonctions qu'on a, tout ce temps passé à te dire, mais est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est pour moi ce métier? Est-ce que machin? Mais les autres ne le font pas, en fait, ils avancent, ils font. Tu vois, c'est vrai qu'un homme blanc de 50 ans ne doute pas beaucoup de lui. Il a une opportunité, il y va, il fait. Il sait faire ou il ne sait pas faire, en vrai, il s'en fout, il fait. Et nous, on passe beaucoup de temps à se dire, ouais, peut-être que, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais machin. Ouais, non, mais c'est pas pour moi, c'est pas la peine. Ouais. Le temps, il est passé, t'as rien fait, et t'es là, et t'as pas avancé, et t'es toujours en train de te poser des questions, et ça arrange tout le monde, finalement, que tu restes à ta place, tu vois. Donc c'est aussi c'est une forme de militantisme pour moi de reprendre le pouvoir, du pouvoir en tout cas, et de la confiance.
Et en fait, par la suite, je me suis forgé ma personnalité et mes opinions au fur et à mesure par le biais de mon expérience.
Justement, on le voit, les discriminations continuent largement de traverser et d'impacter la société aujourd'hui. Madame Magnon, à Nanterre, comment se traduit concrètement la lutte contre les discriminations ?
Alors, je vais faire quand même un préalable avant de répondre à votre question. C'est que je pense que pour lutter contre les discriminations, c'est l'ensemble de la société française qui doit s'attaquer à la question des discriminations. Nanterre seule, on aura beau développer toutes les politiques les plus intéressantes, on ne pourra pas anéantir les discriminations à nous tout seuls. Et donc, c'est d'abord par des politiques publiques nationales qu'on arrivera à résorber ces discriminations telles que ça a été décrit. Et je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser en termes d'éducation, de présence du service public dans les quartiers, de la police, de la justice, etc., etc. Cela étant, vous avez aussi raison de poser la question pour Nanterre, parce qu'on est tous comptables de toute façon, les collectivités, les services, de comment on applique nous aussi l'égalité pour toutes et tous.
Mais aussi et parce qu'il y a certaines villes qui ne portent pas comme Nanterre, en fait, qui ne sont pas aussi transparentes sur ces questions-là et qui n'appuient pas parfois en fait, justement les actions et la lutte de ses habitants.
Oui, et en tout cas, de toute façon, il faut que nous aussi, on cherche à être exemplaires aussi en la matière et qu'on se pose aussi des questions sur comment on accueille le public, comment on accueille tout le monde, comment, en tant qu'employeur, parce que la ville est employeur, on respecte bien l'égalité, voilà, et ça, c'est des questions qu'on se pose en permanence. On cherche, quand on est mis en défaut, on cherche à corriger ces défauts, mais il y a déjà quand même beaucoup d'avancées. Nanterre, par exemple, est une ville où il y a plus de directrices que de directeurs, par exemple, ce qui ne se voit pas très fréquemment. Et à sa tête de l'administration, une directrice générale des services, je le souligne, parce qu'il y a très peu de villes de l'importance de Nanterre en termes de nombre d'habitants où c'est une femme qui dirige l'administration. Donc voilà, mais c'est aussi des questions sur nos politiques publiques, c'est-à-dire qu'on s'est posé, par exemple, la question sur les attributions, par exemple, en termes de logement, en termes de crèche, pour qu'il y ait des critères qui soient objectif, qui ne prête à aucune confusion, et le critère c'est l'ancienneté de la demande, mais c'est aussi la question de la transparence pour les gens, qui sachent où en est leur dossier, pour pas qu'il y ait de soupçons, justement, discrimination. C'est aussi toutes les politiques que je citais tout à l'heure, j'en ai oublié une, et je tiens à la citer quand même, c'est aussi toute notre politique d'après l'école, où on cherche à aider les enfants à réussir à l'école et à leur donner les moyens de pouvoir continuer leurs études. Et une dernière politique qui me paraît très importante, c'est aussi le soutien que nous avons aux associations pour les aider à agir sur la ville, pour aider les gens, parce que ça aussi, c'est indispensable, je pense, pour les habitants, de pouvoir se tourner vers des associations.
Et aussi avec des actions spécifiques, comme celle du printemps de l'égalité.
Printemps de l'égalité, c'est, je pense, un point d'orgue de toute cette politique. C'est une mise en visibilité de cette politique. Et puis, pas que notre politique, c'est-à-dire de rendre visible ce que font les associations aussi, parce que ce printemps de l'égalité, il est d'abord construit avec les associations, et donc c'est de mettre, donner à voir ça, et puis c'est aussi de permettre aux Nantériennes de s'exprimer par la culture, par des débats, par des actions pendant ce printemps de l'égalité, pour montrer que on se rassemble pour lutter contre les discriminations. Je pense que c'est vraiment l'objectif de ce printemps de l'égalité. Voilà.
Et monsieur le maire, justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Après des années de lutte, comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré tout, ça persiste ? Et est-ce que ça signifie que les politiques de lutte contre les discriminations ont échoué ?
Je l'ai dit tout à l'heure, sans les luttes, il y a beaucoup de droits qui sont aujourd'hui qui n'existeraient pas. J'ai pris tout à l'heure celle de l'égalité homme-femme. Je peux prendre évidemment celle de l'accès au logement, par exemple, qui ne peut pas avancer toute seule. Non, d'abord, je pense que c'est un sujet qui, je dis aussi, qui nécessite une mobilisation permanente, mais plus fondamentalement, je ne pense pas que les sociétés actuelles, occidentales, des fois, comme on dit, pour pas dire capitalistes, se fixent l'objectif de la promotion de tous les hommes et de toutes les femmes. Le principe même de l'égalité des peuples, etc. Le principe même, c'est quand même de discriminer, puisque c'est encourager les inégalités, en permanence encourager les inégalités. On voit bien, on parlait de l'éducation, par exemple, c'est pas, on peut se dire que l'objectif, c'est que tout le monde accède au niveau d'enseignement, d'éducation, de diplôme le plus élevé possible. Et puis, on voit bien qu'en permanence, ce système ne s'organise pas pour cela. Et donc, faire en sorte, par exemple, que tous les enfants de Nanterre réussissent à l'école, c'est une lutte. C'est pas simplement quelques mesures administratives qui vont régler le problème. Donc, oui, je pense que c'est au cœur de tout ce qui met en mouvement des hommes, des femmes dans les villages, dans les villes, dans les pays. C'est évidemment au cœur de tout cela, au cœur de tous ces combats, il y a cette volonté, cette envie que finalement tous les hommes et toutes les femmes soient égales, égaux. Et on voit bien que c'est un défi qui, au fur et à mesure, enfin, en tout cas, je le vois comme ça, au fur et à mesure qu'il s'élargira, bousculera la société dans ses fondements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je ne pense pas, mais d'autres l'ont dit avant moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des modes économiques dominants dans des sociétés qui organisent les différences à ce point, et puis que finalement, que les discriminations n'existent pas. J'ai presque envie de dire qu'elles sont incluses dans le système, c'est-à-dire elles sont dans le mode de développement de ces sociétés. Donc voilà, pour ça que le combat n'est jamais terminé, que c'est quelque chose d'ampleur et que évidemment avec des particularités. Et aujourd'hui, je pense que tout à l'heure vous faisiez référence donc à l'année, donc aux chiffres qui montrent une aggravation d'un certain nombre de ces discriminations. En même temps, à l'inverse, on peut aussi mettre en avant comment par exemple celle des violences faites aux femmes, des comportements sexistes, etc., que ce soit à travers le mouvement MeToo, a évidemment irrigué l'ensemble de la société, à la fois française et à l'échelle mondiale. Et donc est un point d'appui, mais c'est aussi celles qui sont du mouvement qui est amplifié par ce qui s'est passé aux États-Unis dans la lutte contre le racisme. Voilà, donc je pense qu'il y a à la fois des sujets d'inquiétude légitimes, et puis en même temps il y a aussi des moments qui doivent donner confiance dans l'idée de la possibilité de continuer de mener des actions rassembleuses qui permettent de gagner, de faire reculer ces discriminations et qui permettent de marquer des points nouveaux dans l'accès aux droits de toutes et de tous. Oui, mais c'est un combat jamais terminé, ça c'est sûr.
Oui, c'est ça. Oui, parce que en fait, c'est l'impression qu'on a. Bah, vous avez fait référence au mouvement Black Lives Matter, et en fait, c'est vrai que ça a eu une portée mondiale, et on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais que, enfin, on pointe en général le fait est que elles existent encore, et souvent on oublie que des choses se sont faites, et à l'inverse du mouvement MeToo, où justement la parole s'est libérée. Voilà.
En même temps, les témoignages que vous avez recueillis à travers dans la préparation de cette émission, etc., montrent la dureté de ce que vivent des hommes et des femmes autour de nous, à côté de nous, dans la ville, au quotidien. Et moi, je pense que ça donne au contraire envie de d'être à leur côté, d'être avec elles, avec eux. D'essayer de porter leur combat, leurs paroles, de les encourager, d'essayer de créer. Et je pense que c'est important que Nanterre, à travers ce qu'elle peut faire, elle essaie de donner de la place à tous ces hommes et à toutes ces femmes pour se faire entendre et pour essayer de peser sur tous les choix qui sont faits et qui organisent ces discriminations. C'est important. C'est important que Nanterre soit une ville comme cela. Voilà, ça fait partie de son identité, de sa chaleur, de ce qu'elle est. Et je suis content que les habitants de cette ville aient encore envie d'être une ville comme ça.
Oui, bah justement, il porte le message Nanterre en lutte contre toutes les discriminations. Et on va revenir justement sur ces acteurs qui luttent contre les discriminations. Comment se sentir chez soi lorsque l'on est discriminé? Ça passe par la parole qui doit être libérée, qui doit continuer à se libérer.
Mais vraiment, à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Et je pense que c'est là, je me suis dit, non, tous les corps peuvent danser.
Ils étaient là à des moments de ma vie où c'était stratégique, quoi. C'est soit ça, soit tu tombes.
En fait, j'ai pu dire au revoir à mon père, mais à ma mère, non, pas forcément. Donc voilà, tout s'est précipité. Donc,
tu veux le racisme à l'école, par exemple? Moi, directement, je ne l'ai pas vécu parce que, bonne élève. En gros, j'étais la petite rebeu dont il faut prendre exemple parce que je lisais, j'avais des bonnes notes et j'étais gentille et je ne faisais pas de problème.
En fait, je ne veux même plus dire chez moi parce que le fait de dire chez soi, ça veut dire que quelqu'un d'autre arrive et il n'est pas de chez soi.
Parler est ce qu'on a fait de plus important ces dernières années. Nous qui n'avions jamais parlé. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est prendre soin de nos paroles. Si nous voulons dire révolution, nous devons permettre à la parole de se prendre là où elle ne se prenait jamais. Écoutez sincèrement et peut-être ce que l'on doit apprendre. Comment entendre, recevoir, soigner, pour ensuite transmettre autre chose que de l'abus de pouvoir.
Il se trouve que je suis une optimiste acharnée. Et donc, je me dis que demain sera plus bleu qu'aujourd'hui.
Justement, Madame Sanchez, qu'est-ce qui reste inaccessible aux personnes porteuses d'un handicap aujourd'hui?
Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu sur les capsules de témoignage, parce qu'en fait, ces capsules, donc avec toutes les discriminations qu'on a pu entendre, de tous les thèmes de discrimination, en fait, c'est vrai qu'elles reviennent toujours sur les mêmes thèmes, on va dire, qui sont une société qui n'est pas adaptée à la différence de l'autre. Donc les domaines, donc plus particulièrement par rapport au handicap, donc il y a les domaines de tout ce qui va être travail, recrutement de personnes en situation de handicap, formation, où là, on a encore, par exemple, des entreprises qui préfèrent payer la GFIP et leurs taxes pour ne pas avoir leurs 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Il y a aussi tout ce qui est formation pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a en fait dans la société cette hypocrisie qui existe, c'est-à-dire les entreprises veulent recruter des personnes en situation de handicap, mais paradoxalement, il n'existe pas beaucoup de formations qui forment les personnes Bac plus 3 ou Bac plus etc. Les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que les supports pédagogiques, les universités, etc. N'ont pas ce souci d'accessibilité, soit sur les contenus pédagogiques, soit sur les rythmes d'apprentissage, soit sur le cadre bâti, tout simplement. Donc là, on est dans le milieu du travail, devant ce paradoxe qui est les entreprises veulent embaucher des personnes en situation de handicap, mais elles n'en trouvent pas, ou très peu, parce qu'il y a un déficit de formation professionnelle qui est réel et qui existe. Après, les autres domaines, bien sûr, on va parler de la santé, avec peut-être pas sur Nanterre, mais des centres de soins qui ne sont pas accessibles de par le cadre bâti. Il y a bien sûr l'éducation, où, comme je le disais tout à l'heure, dès le plus jeune âge, l'inclusion n'est pas prise en compte dans les écoles, peu ou pas prise en compte. Il y a des domaines du logement aussi, le pourcentage de logements accessibles n'est pas assez important. Je sais que sur Nanterre, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits grâce aussi à une mission handicap et grâce au CCAS. Il y a aussi tout ce qui va être biens et services publics, des sites, par exemple, des sites de droit, comme on parlait tout à l'heure avec l'histoire de la fracture de numérique, des sites qui ne vont pas être accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour s'inscrire sur la CAF, par exemple, là, on commence à avoir cette accessibilité. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Il y a aussi tout simplement l'accès à la citoyenneté, qui va être l'accessibilité des bureaux de vote, des campagnes électorales. Et tout ça, c'est en fait une société qui n'arrive pas à changer de regard sur le handicap et sur la différence. C'est pas parce que, je pense, il y a une mauvaise volonté, il peut y en avoir un petit peu, mais par méconnaissance de tout ce qui va être outil de compensation pour pallier justement à ces différences. Alors, on a une technologie assez incroyable dans le numérique, etc., pour faire des merveilles, mais on s'en sert pas. Pourquoi on s'en sert pas? Parce qu'on sait pas s'en servir. Et tout à l'heure, j'entendais monsieur qui parlait de la fracture numérique. Alors, bien sûr qu'elle est la fracture numérique, bien sûr qu'elle est d'ordre économique, mais aussi si elle est d'ordre philosophique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, dès le départ, avec le tout accès au numérique, éduquer les gens pour qu'ils sachent se servir de l'outil numérique. Donc il y a bien sûr le côté économique, parce que tout le monde ne peut pas se payer un ordinateur, une tablette, etc. Mais il y a aussi tout cet enseignement autour du numérique qu'on n'a pas fait. Donc ça, c'est mon petit aparté autour du numérique. Et puis il faut savoir aussi que la France, elle a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées à l'ONU, et que tout ce qui n'est pas accessible en fait en France, on est dans l'illégalité. Donc là, il va falloir faire des efforts. Donc il y a des plans, des plans à 3 ans pour l'accessibilité, etc., du cadre bâti, etc., des sites internet qui se font. Mais étant dans le domaine du handicap depuis à peu près 20 ans, on se rend compte que ça avance à pas de fourmi. On a un petit peu la chance d'avoir une secrétaire d'État au handicap qui est directement liée au Premier ministre, donc ça avance un petit peu, mais les inégalités dans le handicap, elles sont encore bien bien présentes. Et ce qui est important par rapport à Nanterre, c'est que Nanterre fait beaucoup, beaucoup d'actions et soutient justement les associations qui travaillent avec les personnes en situation de handicap pour qu'elles soient visibles, pour qu'elles aient accès à toutes les activités sur la ville, pour changer vraiment ce regard autour du handicap.
Merci beaucoup. Monsieur Ridolfi, dans notre République, tous les territoires sont supposés être égaux. C'est un principe constitutionnel. Alors, un centre socioculturel à Nanterre ou ailleurs, qu'est-ce que ça change?
La problématique qu'on rencontre, évidemment, c'est qu'on a la belle parole qui vient d'en haut et on a une réalité sur le terrain qui est tout autre, quoi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les politiques publiques dans le cadre de la politique de la ville ont échoué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas la volonté de faire une politique globale d'égalité des territoires. Mais comme je le disais dans mes propos auparavant, et comme disait Patrick Jarry, maire de Nanterre, les choix politiques, si à Nanterre aujourd'hui on est là autour de la table pour parler de lutte contre les discriminations, ce sont des choix politiques. Si aujourd'hui les politiques qui ont été successivement faites depuis des décennies sur la politique de la ville et qui n'ont pas réussi, c'est tout simplement parce que la volonté politique de mettre le paquet sur cette égalité des territoires n'était pas voulue, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quand on est dans la politique de la ville, c'est de la saupoudrette, quoi, par rapport. Quand on regarde les sommes qui sont mises en dehors de l'ANRU, de l'Agence nationale de renouvellement urbain, pour réhabiliter des quartiers, mais on ne traite que le bâti, on traite très peu le côté humain et social. Si on ne forme pas les gens, si on n'essaye pas de faire une vraie politique de soutien aux habitants pour sortir de la misère dans laquelle elles sont, pour certains, on n'y arrivera jamais. Et ça, c'est de la volonté. Si on met pas le paquet au niveau national, voire européen, parce qu'il y a des aides qui viennent de l'Europe, dans 25 ans, on continuera à parler comme on parle aujourd'hui, quoi. Et évidemment, Nanterre participe à cette lutte. La ville aide beaucoup les associations dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Mais si on va dans d'autres villes de la métropole, voire françaises, sur le territoire, tout le monde ne parle pas de la même façon. Et comme Patrick Jarry le disait, selon les discours de certains partis politiques, évidemment, les discriminations ne sont pas traitées de la même façon, voire même certains les portent.
Très bien, merci. Je voulais souligner aussi ce que disait tout à l'heure Madame Agnon sur le fait qu'à Nanterre, il y avait plus de directrices, que de directeurs. Pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui sont-elles encore plus touchées par les discriminations multifactorielles? Comment est-ce qu'on peut les combattre concrètement? Justement, un élément de réponse avec Laurine Janton, maire adjointe déléguée aux droits des femmes.
La délégation des droits des femmes, dont j'ai la responsabilité, elle a maintenant un an d'existence, et donc ça permet effectivement de mener de front des batailles et de faire la promotion de l'égalité femmes-hommes sur l'ensemble de la ville de Nanterre, de continuer à jouer ce rôle-là, et puis aussi d'avoir une plus forte volonté sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc c'est tout le projet qu'on est en train de monter actuellement de création d'une maison des femmes à Nanterre. Ça sera donc un lieu unique d'accompagnement, d'orientation des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Et donc dans ce lieu unique, elles pourront retrouver tout ce dont elles ont besoin en termes d'accès aux droits, de services sociaux, de services psychologiques, etc. Et c'est un projet qu'on est en train de construire en partenariat très étroit avec l'hôpital de Nanterre. Et donc on va pouvoir bénéficier de toute leur expertise et leur expérience d'un point de vue médical et santé pour les femmes et les enfants victimes de violences. Moi, je trouve qu'on a fait des progrès gigantesques en l'espace d'un siècle. On a quand même fait des progrès sur la place des femmes dans nos sociétés qui sont pas... Faut voir le chemin parcouru pour pouvoir apprécier aussi l'évolution des sociétés et la place des femmes. Je pense qu'on est encore à combattre ça parce que les femmes, elles ont à gérer beaucoup de choses et elles ont un rôle qui est encore considéré comme mineur dans nos sociétés, alors qu'elles sont, pour moi le fondement de toutes les sociétés et je trouve qu'elles portent un peu trop sur leurs épaules beaucoup trop de responsabilités, à la fois dans la sphère familiale et depuis qu'on est sur le marché du travail, en tout cas en France depuis les années 60-70 avec la forte tertiarisation, on a la fameuse double journée, mais voire triple, quadruple journée pour certaines femmes qui assument à la fois une carrière professionnelle ambitieuse et tout ce qui est lié aux tâches domestiques et à l'entretien de la famille, etc. Je pense que si on défend les droits des femmes, on est féministe de fait, mais si on ne souhaite pas s'en revendiquer, c'est parce qu'on a encore peut-être un gros travail de communication positive autour de ce mot, autour de cette définition de qu'est-ce que c'est être féministe. Être féministe, c'est tout simplement être pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Donc sur cette question, Madame Braga, depuis le mouvement MeToo, la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes est revenue sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que les violences sexuelles et sexistes ne diminuent pas? Il semblerait même qu'elles aient augmenté avec la crise sanitaire. Est-ce que c'est possible de les éradiquer selon vous?
Alors, éradiquer, c'est le but, hein. On a tous envie d'arriver à ce stade-là. Après, comme on l'a déjà dit et comme on le sait, il y a énormément de travail et de chemin à faire toutes et tous ensemble. Et effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été dits auparavant. C'est des décisions et des choix politiques. On a beau, effectivement, tous s'engager depuis des années et des années dans les associations, dans la politique, dans nos actions personnelles, c'est des choix politiques ancrés et ça met du temps. Et effectivement, on avance petit à petit, comme disait Patrick Jarry aussi au tout début, concernant le droit des femmes, il y a encore pas si longtemps que ça, les femmes ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas conduire, devaient demander l'autorisation à leur mari pour ouvrir un compte en banque, ne pouvaient pas travailler. Ça a évolué, certes, mais voilà, c'est toujours petit à petit, petit à petit. Alors après, il y a toujours des gens motivés, comme on le voit autour de la table, et on est tous et toutes ensemble, mais voilà, il faut que l'État prenne sa part, et encore une fois, ben, effectivement, Nanterre est très impliqué dans ces choix politiques-là pour faire évoluer les situations, mais nous, on le voit rien qu'au niveau même départemental, hein. Nous, la FED, on est subventionné principalement par le Conseil départemental, et ce qui est très bien, mais il faut encore toujours aller chercher l'État, les subventions n'augmentent pas, alors pour l'instant, elles ne régressent pas, parce qu'on est en pleine situation de violence faite aux femmes, où du coup la société commence à entendre ce qui est dit depuis des années, des années et des années, hein, parce que les femmes, elles ont toujours parlé, on le sait bien, mais elles n'étaient pas du tout entendues par la société. Donc là, la société commence à entendre, mais il faut que chacun, voilà, et chacune, et les départements, les mairies et l'État, tout le monde puisse s'impliquer, parce que sinon, c'est des pas de fourmis, comme il était dit tout à l'heure, quoi.
Et vous parliez tout à l'heure des discriminations administratives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors ben, du coup, il y a aussi c'est étonnant qu'on en parle, ça revient de plus en plus, je l'ai entendu dans la fracture numérique, et c'est surtout sur la question d'accès aux droits, où moi je voulais vraiment insister, parce qu'on a l'habitude, hein, maintenant on commence à entendre les discriminations en lien avec les femmes victimes de violences pour aller porter plainte, pour l'accès au logement, où elles doivent quitter le domicile conjugal, donc tout ça, ça commence à être entendu, mais par contre on entend très peu, et là pour le coup on en parle, et c'est super intéressant et c'est super bien. Je pense que du coup, par les associations, les choses commencent à remonter. Mais effectivement, nous, on a des femmes à l'association. Bon, il y a des questions d'ouverture de droits toutes simples à la CAF, à la CMU, à tout ce système-là qui est très difficile pour elles, parce que beaucoup n'ont soit pas accès à Internet ou à un ordinateur, parce que maintenant, de plus en plus, les démarches se font par Internet et par les sites. Donc, il y a beaucoup de difficultés à accéder. Elles n'ont pas d'ordinateur. Où vraiment le système est vraiment mis en place, le système national, pour effectivement alimenter ces discriminations. Alors, quand il y a des associations ou des personnes qui sont là pour aider, c'est parfait, mais il y a aussi beaucoup de femmes, notamment, qui n'ont pas accès aux associations, qui n'ont pas accès aux assistantes sociales, hein, qui sont aussi beaucoup là pour aider dans les démarches. Mais les formulaires, même si on sort du numérique, mais même rien que les formulaires administratifs, quand on commence à entendre la phobie administrative, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans l'administration qui est dans les formulaires à remplir pour avoir accès aux droits, les droits de base, des droits qui sont quand même importants dans la société. Tout est mis en place pour que ça soit difficile. Et même nous, en tant que professionnels formés, et moi ça fait des années que je travaille dans une association, je suis assistante sociale depuis des années, même nous, les formulaires changent régulièrement. Et on doit régulièrement se réadapter. Il y a des fois des petites formules où, si on coche la mauvaise case, l'accès du coup à, par exemple, une prestation CAF, elle va être retardée ou supprimée parce que la bonne case n'a pas été cochée. Enfin, c'est tout un système où, ben, du coup, pour les femmes, l'ouverture des droits ou l'accès aux droits va être complètement retardée, annulée. Elles vont se retrouver dans des situations de précarité parce que les droits ont été coupés pour une mauvaise case cochée. Et donc, on est vraiment quand même sidéré par tout ce système-là qui n'avance pas ou qui recule et qui fait en sorte que les gens n'aient pas du tout accès, notamment pour les femmes, hein, parce que c'est souvent elles qui ont soit eu des coupures de droits ou qui n'ont pas eu accès à tout ça, notamment dans les violences conjugales. Ça les met encore plus en difficulté, déjà qu'elles ont à surmonter, dénoncer les violences, partir du domicile pour certaines, porter plainte. Donc c'est vraiment, elles accumulent les discriminations et les complications, quoi.
Merci. Justement, dans cette continuité discrimination, on va écouter une nouvelle capsule.
Dans les foyers, chez les gens, eux-mêmes, ils sont très affectés, très impactés par cette difficulté de l'accès au séjour. Et dans un parcours de citoyenneté, je trouve que c'est violent. Hier, j'ai encore eu un jeune homme qui est venu, il m'a dit, écoute, t'en renvoie-leur un message, dis-leur je vais me suicider, moi je comprends pas, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc comme si ils vivaient ça comme une agression et une provocation. Alors je dis, non mais calme-toi, on va s'arranger, on va envoyer un message, mais moi qu'est-ce que je fais de cette détresse qui me renvoie ? D'accord, on nous donne des subventions hein, pour répondre à ces problématiques, on nous donne des moyens, mais c'est rien à côté de la réalité du besoin. Et du coup, il faut le faire entendre, ça. On ne peut pas se décharger comme ça d'une responsabilité à des structures ou à des individus quand l'instance première ne remplit pas son rôle, quoi.
Il y a plein de réalités qu'on ne voit pas parce qu'on est dans notre cercle restreint de connaissances, au moins de s'intéresser à certaines thématiques. Les handicapés, on ne les voit pas non plus.
Non.
Surtout les moteurs. Les villes sont tellement faites pas pour des gens en fauteuil roulant que ce n'est pas possible de les voir. Dans mes activités, je fais en sorte qu'on puisse les voir ou que tout au moins des élèves des classes ordinaires puissent fréquenter des élèves extraordinaires pour parce que derrière la maladie, derrière un handicap, etc., on est tous pareils.
À la préfecture ?
Oui.
À chaque fois que je suis allé, il faut aller 4h ou 3h du matin, rester jusqu'à 10h dehors pendant l'hiver, faire la queue. Et souvent, c'est compliqué. Deux fois, tu viens et à la dernière minute, il n'y a plus de place. On te dit, reviens demain. Et donc...
Ça t'est arrivé, ça ? D'arriver oui. À 3h du matin ?
Ouais.
Et pourquoi t'es arrivé à 3h du matin ?
Parce que déjà, si tu ne viens pas, les places sont limitées. Le nombre de personnes qui vont être prises par jour, ça, c'est limité. Et donc, il faut que tu sois là un peu plus tôt et rester, quoi. Dès que tu bouges, tu n'as plus ta place. Donc, il y a des gens qui mettaient des tentes et tout ça.
J'espère, je me rassure en me disant que derrière toutes ces lois, il y a une volonté de... Voilà, tu te rends compte comment je suis ? Tu te rends compte ? Je culpabilise, j'essaie de trouver des excuses. Et ça, c'est mon défaut, trouver des excuses quand il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas.
Super. Enfin non, pas super, mais...
Au secours.
Bah, Monsieur Armstrong, est-ce qu'on peut trouver justement des excuses là où il n'y en a pas sur ces sujets-là ?
Ça c'est difficile parce que dès le départ en fait qu'on dit on culpabilise la personne pour dire c'est votre faute si vous êtes par exemple si vous êtes noir, si vous êtes d'origine maghrébine, si vous êtes handicapé et tout. Dès le départ en fait la société, enfin c'est assez grossier de dire ça, mais dire dès le départ on dit que voilà, vous êtes différent, c'est votre faute, c'est comme ça. J'ai par rapport au capsule d'avant. En fait, il y avait une dame qui disait que justement, l'homme blanc à la cinquantaine, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Qu'il réussit, pas, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de doute. Alors que justement, dès le départ, dès notre enfance, on nous accuse ce doute-là. On peut dire, ah, mais tu vois, tu es différent, donc tu peux pas avoir le même droit, tu peux pas aller au même endroit et tout, ou si tu veux faire ça, il faut prendre un autre chemin, qui est parfois plus long, parfois plus difficile. Et ça revient encore. En fait, on non seulement l'expression vient des autres, mais aussi on écrit nous-mêmes, disant que je suis de telle origine, je suis de telle couleur de peau, je suis une femme, je suis handicapée, donc forcément, je me sens inférieur, ou parfois je me dis, forcément, je n'ai pas la capacité de le faire parce que ce n'est pas fait pour moi et tout, etc. Alors que justement, si c'est là, c'est que tout le monde peut le faire en fait. Le problème, c'est que c'est un vrai parcours de combattant. Vraiment, pour avoir quelque chose au même niveau qu'une personne, lambda français qui a pas eu tous ces désavantages là, tout. C'est un vrai parcours de combattant. Il faut travailler parfois deux fois, voire même trois fois plus dur pour avoir le même niveau qu'une personne pourrait faire ça, normalement, sans aucune difficulté. Et c'est ça qui est vraiment triste, parce que, non seulement de plus jeune âge, que ce soit dans l'éducation, ou même dehors, on nous dit que forcément vous êtes différent, donc forcément c'est votre faute. Si vous n'arrivez pas à faire ça, parce que vous êtes différent, vous n'arrivez pas à faire les choses vous-même et tout, parce que justement, il y a ce, il y a ce, comment dire, il y a ce préjugé, il y a vraiment ce cliché de, qui est vraiment ancré dans la mentalité, dans les esprits, comme quoi bah, telle personne ou telle origine ou telle personne d'ethnie différente tout, ne peut pas faire ça parce que justement, elle n'est pas faite pour ça justement. Elle est faite pour faire autre chose. Elle est faite selon les choses que, selon eux ou moi, je vois bien le faire et tout. Et le problème, c'est que bah, cette personne-là, elle va se convaincre elle-même, elle va se dire, bah, si je n'arrive pas à faire ça, bah, c'est ma faute. Bah, si je n'arrive pas à faire ça, bah, je vais faire ce que je vais faire, ce que personne me demande. 100% ça puisse lui plaire, 100% ça puisse lui convenir. Et donc forcément, il y a comment dire, une illusion, il y a un mensonge sur la personne en question, de dire, je fais ça parce que je veux dire parce que ça me plaît, parce que tout le monde me dit que ça va me plaire, et que franchement, je fais pour ça. Alors que justement, c'est tout le contraire. Et c'est ça qui est difficile, mais aussi triste, parce que justement, ces personnes-là, elles se donnent des limites, et immédiatement un plafond de verre qui, dans leur esprit, ils ne sont pas capables, ils se diront, je ne suis pas capable de faire ça, donc autant mettre une limite, et pas aller plus loin ce que d'autres, ou même ce qu'on m'a appris, de ne pas aller plus loin.
Vous m'aviez dit justement, quand on s'était eu au téléphone, que vous aviez vous-même vécu certaines discriminations pour lesquelles vous luttez au sein de la Ligue.
Oui, alors justement, pour mon cas personnel, je suis pas, alors je suis à moitié français, d'accord, je suis né en Amérique. Ce qui est drôle, c'est que quand je suis en Amérique, je n'ai pas connu le racisme. Parce que je suis issu d'un milieu, d'une communauté qui justement m'ont fait en sorte que je ne sentais pas. Peu de temps après, nous avons emménagé en France, et c'est là où j'ai vécu le racisme de la pire des manières, parce que j'ai découvert par la violence, j'ai découvert par les insultes. Donc au départ, quand vous êtes jeune, vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce que vous dites qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me déteste, vous mettez en question. Parce qu'il y a une attitude, un comportement qui ne plaît pas aux autres, donc forcément, vous êtes tout. Et quand on vous reproche de ce que vous êtes réellement, de votre identité, c'est frustrant et ça fait mal d'entendre dire ça, enfin, surtout pour. Et je parle en tant qu'adulte, mais je parle aussi pour les enfants et tout, qui vivent en ce moment même. Ça, c'est dur tout parce que. Ça veut dire qu'en gros que leur propre identité, ce qui fait justement la personne qu'ils sont exactement, ça les reprocher. On leur en veut pour ça, on leur donne une haine par rapport à ça. Et donc forcément, ces personnes-là, il n'y a que deux solutions. Soit ces personnes s'affirment totalement, et alors Dieu merci, là on en sommes en 21, ça le fait de plus en plus, mais à l'époque c'était pas le cas. Et justement, ça revient sur la deuxième option. Et autant me détruire, c'est vraiment ça, c'est autant se détruire, rejeter tout ce que j'ai là, d'être l'étranger sympa, d'être l'étranger de bon élève, etc. Et vraiment se détruire et se dire, de prendre des valeurs qui me correspondent pas, qui sont peut-être pas les miennes et tout, pour justement mieux m'intégrer, mieux m'adapter, mais au final. Mais finalement, c'est là, on est perdant parce que même si on apprend l'hymne national, on connaît toute la culture française, on connaît la langue par cœur, on connaît l'histoire de France au bout des doigts, etc. Tout, dans tous les cas, on est perdant parce que tout simplement, l'origine, la couleur de peau, l'appartenance religieuse, enfin, tout ce qui peut être différent à l'identité française, parce que l'identité française, depuis son histoire, a toujours été multiculturelle. Justement, c'est l'histoire de France, c'est basé sur ça. C'est une richesse qui, justement, c'est ça qui m'a beaucoup attristé. C'est une richesse que la France s'en cache et n'en sert pas, justement. Et c'est ça qui m'attriste beaucoup. Et ça, c'est un petit aparté. Tout ça pour dire que malgré qu'on a pris tout ça, les personnes sont toujours discriminées. Ils seront toujours rejetés par ces mêmes personnes-là qui disent que par votre faute, couleur de peau, appartenance religieuse, par votre nationalité, quel que soit qui est différent de la personne qu'ils ont insulté et frustré, justement, je veux dire, de dire que c'est votre faute si vous avez ça en fait. Vous avez beau rejeter tout ce qu'on doit rejeter, on vous prendra pas quand même. C'est ça qui est vraiment frustrant, et c'est ça que justement notre association, et même personnellement ou même dans la vie tous les jours, nous essayons de lutter contre ça. Et c'est vraiment une injustice qu'il faut mettre à terme, en fait, tout simplement.
Merci. Et justement, en entendant ce témoignage, Madame Magnon, à quoi servent vraiment des initiatives comme celle du Printemps de l'égalité ?
D'abord, à permettre d'entendre justement ce que les gens vivent, pour leur donner le micro, leur donner la parole, leur donner la visibilité, comme je le disais tout à l'heure. Et je trouve que pour pouvoir aussi combattre les discriminations, il faut les rendre visibles, parce qu'on a quand même aussi beaucoup tendance à cacher les choses, à ne pas dire les choses. Et donc, de marquer très fort le fait qu'on refuse ces discriminations et qu'on donne la parole parce que ces discriminations existent et qu'il faut les combattre, je trouve que c'est un moment important aussi le but du printemps de l'égalité, qui est ça, et qui doit permettre de construire des initiatives après tout au long de l'année, sous différentes formes, pour continuer le combat, pour continuer la lutte, comme le disent les affiches.
Et vous avez créé justement des partenariats au sein de la ville ou à l'extérieur ?
Alors, on en est déjà au 9e printemps de l'égalité, et puis il y a eu d'autres actions avant. Déjà, le partenariat, il est avec les associations, et ce partenariat, il est quand même très fort à Nanterre. Et d'ailleurs, je veux remercier cet investissement des associations et ce travail avec nous, y compris pour ce printemps de l'égalité qui a quand même pas été simple à monter, et malheureusement on n'a pas pu faire toutes les initiatives que tout le monde, enfin qu'on aurait voulu, mais c'est partie remise et on fera d'autres initiatives. Mais je pense qu'il faut continuer à amplifier ça, et j'espère que d'autres associations auront envie de se joindre à ce printemps de l'égalité, peut-être à se créer aussi sur la ville, que des syndicats qui sont au cœur aussi de la lutte contre les discriminations dans les entreprises prendront toute leur part dans les prochains printemps de l'égalité ou dans d'autres initiatives. Mais tout ça, ça existe déjà, et je pense qu'il faut continuer à l'amplifier, mais pas pour rester sur Nanterre et se dire Nanterre est une petite bulle où on lutte entre nous, avec nous, ensemble, mais pour donner de la force au niveau de la lutte qu'on doit mener au niveau national. Et je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. Si on reste que sur Nanterre, je pense que ça n'a pas de sens de dire qu'on lutterait contre les discriminations juste à Nanterre.
Merci. Donc on voit apparaître des nouvelles formes de militance et de lutte qui sont aussi apparues autour de la place de la femme, qui sont plus informelles, plus mouvantes. Est-ce que l'avenir aussi de la lutte se fait à travers les réseaux sociaux, Madame Braga ?
Alors oui. Je pense que les réseaux sociaux et ces accès-là, notamment pour les jeunes, ça a permis de faire évoluer beaucoup de choses, parce qu'il y a effectivement aussi, je pensais à l'accès aux podcasts et à toute une jeune aussi génération de journalistes qui s'emparent de beaucoup de sujets, et effectivement il y a eu un accès à toute une culture, à toutes des connaissances, et notamment en lien avec le féminisme, qui est aussi passé par ce biais-là. Donc ça passe par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, mais aussi sur ces temps-là de podcast et de pouvoir aussi se poser, parce que pour certaines femmes, nous aussi qu'on reçoit à l'association, elles en parlent, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, celles qui n'ont pas accès aux livres, à la lecture. On a des femmes qui sont aussi d'origine étrangère, mais qui comprennent très bien le français. Ces moyens-là, elles ont pu entendre, et entendre aussi des femmes qui les ressentent, et du coup elles se sont aussi emparées de ça. Après, bien sûr, je pense que Le travail des associations, hein, bien sûr, je vais parler aussi parce que ça fait des années que je travaille dans une association. C'est aussi hyper important pour faire évoluer les choses parce que, certes, écouter, lire, c'est la base et c'est primordial, mais pour que les femmes ont besoin d'un espace à elles. Et nous, c'est ce qu'on fait à la FED, c'est qu'on leur crée cet espace de parole-là, parce que du coup, elles, leur discours ou leur écrit ne partent pas comme ça dans la nature des réseaux sociaux et de « on ne sait pas comment ma parole va être réutilisée ». Ça, c'est leur espace à elles, et elles peuvent dire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite, elles ne sont pas jugées. Et bien sûr, on est tenu au secret professionnel. Donc, des espaces associatifs sont aussi très, très importants, notamment pour les femmes, pour qu'elles se sentent en sécurité et puissent exprimer tout ce qu'elles souhaitent aussi, quoi.
Merci. Justement, toutes ces discriminations correspondent à une volonté, parfois, de faire entrer les gens dans des moules, de faire en sorte qu'ils se ressemblent tous. Et si on agrandissait le faisceau ?
Les premières victimes du Covid dans le milieu du travail, ce sont beaucoup plus de ceux qui étaient en situation précaire au niveau de leur contrat de travail, s'ils avaient un contrat. On trouve les femmes qui travaillent à domicile, c'est des employeurs particuliers qui font le ménage et ainsi de suite, déclarés ou pas déclarés. Effectivement, quelqu'un qui vivait uniquement avec des ménages de cette façon, il se retrouve avec rien.
C'est exactement le même processus mental que de discriminer une personne parce que c'est une femme ou parce qu'elle est d'origine autre ou parce qu'elle a une couleur qui ne correspondrait pas à un certain standard. Ou que, moi je suis persuadée qu'il y a la même chose. C'est sous-tendu, mais il y a un même terreau pour moi.
On a vu arriver tout ce qu'on appelle les salariés sans papier. Et il y en a plein. On les fait travailler, soit en connaissance de cause, ils n'ont même pas présenté un papier, une pièce d'identité, ou ils ont présenté une fausse pièce d'identité. Comme dirait l'employeur, parce qu'on a eu affaire à eux, ils disent, oui, ils se ressemblent tous. Dès qu'il y a eu la Covid, ces restaurants, ces bars ont fermé. Tu rentres chez toi et en plus, je ne peux pas te déclarer pour le toucher le chômage partiel parce que tu sais très bien que tu n'es pas déclaré.
Ah, c'est plus que précaire, là. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien.
Qui peut le plus, peut le moins, quoi. Je me dis, si on grandit le faisceau, toutes les réalités, toutes les difficultés, finalement, se valent. Quelqu'un qui connaît une sorte de difficulté est en mesure de comprendre une autre qu'il ne connaît pas par ailleurs, quoi.
Justement, à nouveau, des témoignages qui témoignent de toutes ces discriminations. Et on oublie parfois que de nombreuses personnes souffrent aussi des situations liées à la vie amoureuse. Madame Sanchez, autant on peut concrètement voir ce qui peut se faire en termes d'accessibilité des espaces, des équipements publics pour les personnes atteintes d'un handicap moteur, autant sur le sujet de la vie amoureuse, comment la société peut-elle intervenir ?
Alors, pour l'instant, la vie amoureuse et la santé sexuelle des personnes en situation de handicap est pas du tout prise en compte. Donc, l'initiative qui a été faite à Nanterre avec l'exposition Échange de regards, l'initiative autour de la photographie qui illustrait la rencontre de jeunes de l'espace jeunesse du parc et des personnes en situation de handicap est très intéressante parce que du coup on a pu libérer la parole parce qu'en fait c'est vraiment une question aussi de tabou autour de cette question pour tous en général mais encore plus pour les personnes en situation de handicap. handicap. Et donc, cette exposition est vraiment le reflet de tous les questionnements des jeunes et autour de la vie affective des personnes en situation de handicap. Et si on commence à lire tous les textes qui sont sur les photos avec les portraits, on se rend bien compte que qu'en fait une personne en situation de handicap, on n'imagine pas qu'elle ait une vie amoureuse. Voilà. Donc à partir de là, il y a en ce moment une prise en compte de cette santé, on va dire, affective, qui est importante pour tout le monde. Et dans les initiatives qu'il y a en ce moment un peu innovantes, Créative Handicap, donc l'association fait partie des groupes de recherche pour des créations de centres ressources régionaux et qui vont être, on va dire, des centres qui vont pouvoir produire des évolutions de législation et de réglementation autour de cette question, qui vont faire évoluer l'environnement, qui vont informer les professionnels de santé et médico-sociaux, et qui vont favoriser aussi la capacité des personnes à envisager leur vie intime, affective et sexuelle en leur renforçant leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait entendu dans les petites capsules des personnes en situation de handicap qui disaient « mais moi ça me sera jamais accessible, moi le regard que j'ai sur moi-même il m'handicape », etc. Donc il y a une question de changer le regard autour de cette thématique qui est très importante, à la fois le regard des personnes en situation de handicap sur elles-mêmes pour leur redonner les moyens et la possibilité d'avoir une vie affective, et de changer aussi le regard de la société envers la vie affective des personnes en situation de handicap, et en arrêtant de penser qu'une personne ne peut pas avoir une vie affective et en l'infantilisant, et etc. Donc ces centres, cette problématique qui est prise en compte par ces centres de ressources va être importante, et ça va être une avancée, je pense, majeure si elle est bien faite. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à cette thématique. Il y a aussi, nous on fait un travail aussi qui est intéressant avec une petite start-up qui est canadienne et qui est en train de développer une application de rencontre pour les personnes en situation de handicap, entre autres, et pour leur permettre, en fait, de lier des liens, etc., avec tout le monde. Et quand on voit, par exemple, avec le Covid, que toutes les relations les relations de rencontre passent énormément et de plus en plus par rapport au site de rencontre, on se rend compte que ces sites, en fait, ils sont très, très discriminants. Et ce travail qu'on est en train de faire avec cette petite start-up canadienne, il est très important, et ça sera aussi un autre outil, on va dire, pour que les personnes ne restent pas isolées et en rencontrent d'autres. Voilà, parce que c'est vraiment de provoquer la rencontre qui est important. Et aussi d'expliquer que les personnes ont droit à cette vie affective.
Merci Madame Sanchez. Donc voilà des initiatives qui rendent inclusive, justement. Et Monsieur Ridolfi, comment est-ce qu'un centre socioculturel à Nanterre peut-il aider justement à inclure l'ensemble des habitants, l'ensemble du quartier dans une ville comme Nanterre ?
De toute façon, comme je le disais au préalable, la charte des centres sociaux a des valeurs, et ces valeurs, justement, c'est le non-jugement de toute personne dans sa dignité humaine. Donc à partir de là, évidemment, ce que nous travaillons, c'est juste le rassemblement, je dirais, ensemble, le vivre ensemble, et en même temps de ne jamais juger quelqu'un par l'apparence qu'il dégage, mais de discuter, de les accueillir, de les accompagner dans la diversité de la personne que l'on reçoit. À partir de là, toutes les initiatives que nous menons sont faites soit individuellement dans le cadre des accès aux droits ou au niveau des familles, quoi, ou, alors évidemment pas dans cette période un peu compliquée de crise sanitaire, mais on met en place aussi plusieurs initiatives pour des activités, je dirais, plus générales, de rassemblement dans un quartier, ou aussi en partenariat avec la ville dans le cadre des fêtes de quartier, etc. ou de la vie associative, pour rassembler les gens à se connaître et à outrepasser les peurs qu'ils peuvent avoir par rapport aux autres. Parce que certaines discriminations, pas toutes, quoi, mais ce que disait Christopher tout à l'heure, par rapport à la couleur de peau, par rapport à d'autres discriminations, c'est la méconnaissance de l'autre. Et quand on apprend à connaître, cette peur disparaît. Et c'est une des discriminations qui tombe. Et donc tout le travail qu'on mène au quotidien, c'est évidemment montrer aux gens que les personnes sont comme tout le monde. On est tous de cette même terre et nous sommes tous universels. Donc c'est une lutte en permanence. Ça fait des années qu'on lutte, mais on luttera encore demain. Patrick Jarry le disait, tout ce qu'on a gagné aujourd'hui, c'est par la lutte. Eh bien, aujourd'hui, on continue à lutter. Et je me réjouis des prises de parole de tout le monde, que ce soit sur MeToo, mais aussi sur l'inceste, sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on arrive à un tournant où les gens délient, la parole se délie, quoi. Et on parle, il faut encourager à ce que les gens parlent de plus en plus et disent qu'ils vivent justement pour pouvoir, je dirais, interpeller la conscience humaine. Et les centres sociaux y participent.
Très bien, merci. Monsieur Armstrong, est-ce que cette lutte, elle peut aboutir si on ne lutte pas justement dans ce changement de mentalité ?
Selon moi, c'est impossible parce que justement, la lutte contre l'expression, c'est la lutte pour changer de mentalité, justement. Il est impossible de changer quelque chose, de changer une discrimination. Pour me reprendre, de changer une inégalité. De faire avancer les choses si on ne change pas de mentalité. On a pu voir, comme dit Patrick Jarry, que justement, ça s'est fait au fil du temps, en fait. C'est au fil du temps parce qu'il y a une évolution de mentalité. Justement, parce que justement, cette lutte-là, on avait lutté pour que justement les personnes puissent changer, puissent prendre conscience de cette inégalité-là, puissent prendre conscience de ce qu'il y a dans notre pays, qu'on voit, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il faudrait peut-être changer ça et tout, parce que justement, on avait réussi à briser cette mentalité, cette mentalité qui est égoïste, dans le sens où, pourquoi on devrait faire ça, parce que justement, pour moi, ça ne me dérange pas, mais que justement, dire, peut-être que ça ne me dérange pas, mais peut-être que pour mon voisin, qui lui, justement, est différent, ça le dérange. Peut-être que, justement, faire ça tout. Donc forcément, ça se fait petit pas. Et forcément, tous les résultats qu'on a jusqu'à maintenant, ça s'est fait par un changement de mentalité, mais aussi par une évolution de mentalité. De dire que, justement, le problème qu'il y a eu là, on était conscients, et justement, on a pu évoluer avec ça, et justement, on a changé. Et justement, mettre à terme à ça, ou justement, changer de mentalité, dire ça avant, c'était bien, mais ce qui était bien avant pour moi n'est plus à l'heure actuelle. Donc, il faut peut-être changer et justement adapter ces choses-là pour les personnes qui, justement, ça les dérange, mais aussi également pour les générations à venir.
Merci. Monsieur le maire, le mot de la fin avec vous, qu'est-ce que ces échanges vous inspirent ? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à l'avenir ?
Non, je veux surtout, puisque ça va bientôt marquer la fin de ce moment, donc sur ce mois de lutte contre les discriminations à Nanterre, ce printemps de l'égalité. Non, d'abord, je pense que c'est important de remercier tous ceux qui se sont mobilisés dans ce moment d'action, surtout en ce moment, c'est pas très facile d'organiser les choses. Et puis je crois qu'il faut être lucide sur les dangers qu'il y a dans notre société, que parfois des des inégalités, des discriminations s'aggravent. Hein. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, hein, c'est une technologie. C'est-à-dire, ça peut être le pire et la meilleure des choses. Hein. On voit bien que, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi un moyen par lequel se portent des idées racistes, se répandent des idées racistes à une vitesse colossale, avec des fake news à tour de bras, etc. Donc, il faut être lucide sur les dangers qu'il y a dans la situation présente. Et en même temps, je pense qu'il faut être confiant dans la capacité qu'il y a chez les hommes et chez les femmes de se mobiliser pour continuer de faire avancer cette lutte contre les discriminations. Il y a des aspects évidemment très important de changement de mentalité autour de nous. On disait tout à l'heure, souvent, par exemple, se faire rencontrer les gens dans un quartier avec cette idée que le vivre ensemble, évidemment, c'est pas s'aligner tous hein, sur la même tête ou sur la même ligne. Le vivre ensemble, c'est au contraire, c'est faire vivre toutes ces différences, c'est considérer que les différences sont un enrichissement pour tous. Bon, donc il y a toutes ces initiatives qui parfois semblent simples, semblent aller de soi, mais se rencontrer, faire des tas de choses de soi. Et puis en même temps, il y a des initiatives fortes à faire pour que, par exemple, les discriminations à l'entrée dans le travail en fonction de sa couleur de peau, hein, ou de son origine, de la sonorité de son nom, ou de son prénom, ou du lieu dans lequel on est né, ça nécessite des initiatives concrètes avec les syndicats dans les entreprises, avec les associations qui, des droits de l'homme et autres, qui, y compris, entreprennent des actions en justice pour défendre, etc. C'est-à-dire, oui, il y a tous ces niveaux-là où tout à l'heure on parlait par exemple de la question de l'accès au logement. Dans une métropole dans laquelle il y a 720 000 personnes qui demandent un logement social et où il y en a qu'à peu près, ils s'en libèrent à peu près 70 000 par an, bah, si on en construit, c'est mathématique, hein, si on n'en construit pas d'autres, on ne construit pas de manière relativement importante dans toutes les villes des logements sociaux, dans un système de pénurie, les discriminations sont encore plus fortes. Et puis, il y a des choses, par exemple, qui doivent nous révolter, qui doivent nous mobiliser. Par exemple, on évoquait cette question, mais comment on peut... tout à l'heure, on disait, par exemple, l'administration. On a l'impression, des fois, qu'on cherche un peu volontairement à compliquer les choses. Je prends par exemple, ils sont nombreux à Nanterre, les gens qui ont par exemple une carte de résidence de 10 ans. Il y a juste à le renouveler. Mais comment c'est pensable qu'on n'ait pas encore, au niveau de l'administration française, fait ça d'une manière assez simple, y compris pour Internet, pour tous ceux qui peuvent le faire, et puis par assistance pour les autres. Ça me semble vraiment très simple. Et donc, si on le fait pas, c'est quand même peut-être qu'on a derrière la tête que finalement, on va suspecter un peu en permanence, notamment ces gens-là, peut-être, on faut traquer, je sais quel, etc. Donc, il y a aussi ces actions-là qui sont fortes à continuer de mener, de ne pas accepter ces manières de faire. On parlait de la fracture numérique, par exemple. Bien sûr, maintenant, chacun voit bien qu'il y a une partie de la population qui vit comme un avantage, comme une demande, et c'est utile de pouvoir, au lieu de se déplacer pour s'inscrire sur ceci, cela, de pouvoir le faire sur Internet. Voilà. Maintenant, toute ville, toute administration qui ne pense pas en même temps de continuer de développer des espaces pour recevoir ceux qui en ont besoin, organisent les discriminations. Voilà. Y a pas, personne ne peut aujourd'hui dire qu'on ne sait pas, qu'on peut les prendre tous, la Sécurité sociale, la CAF, les caisses de retraite, les administrations pour avoir s'inscrire pour le logement, etc. Par exemple, prenons la question du logement, il faut que, bien sûr qu'il y a des tas de jeunes, ils viennent pas, ils ont pas envie de venir en mairie pour faire une demande de logement. Ils font ça direct sur site, et puis voilà, ils sont inscrits, ils ont une demande de logement. Mais en même temps, partout, il faut qu'il y ait des lieux avec des hommes et des femmes, des fonctionnaires qui sont à l'écoute et qui accompagnent. Mais si on a en tête, qu'il faut diminuer à tout prix la dépense publique, donc du coup le nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire on les a diminués à l'hôpital, il faut les diminuer dans les communes, il faut les diminuer à la CAF, il faut les diminuer à la sécurité sociale, il faut les diminuer dans les barreaux, au tribunal, etc. Si on pense que si on continue d'être dans un mouvement où il faut systématiquement, etc. C'est pas par hasard qu'on pense que il faut vous accédez au droit que si vous faites les démarches par internet, parce que forcément ça mobilise beaucoup moins de ressources hein, que de mettre par exemple le nombre d'assistantes sociales nécessaires pour on parle de choses. On est dans un département, dans notre département, notre département qui, alors qui le conseil départemental fait 600 millions d'euros pratiquement chaque année d'excédent. On a diminué le nombre d'emplois dans les services sociaux. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est à Nanterre, mais qui est à Colombes, qui est à Rouen, qui est à Suresnes, etc., qui a besoin de l'accès à une assistante sociale pour faire valoir ses droits, pour l'aider à remplir les papiers, à conseiller, etc., les démarches, ben c'est difficile de non. Donc voilà, c'est pour ça que ça me semble important que il faut qu'on soit sur tous les aspects, à la fois les aspects des mentalités, l'aspect de rapprocher les gens, etc., et en même temps de mener des actions très concrètes pour que on fasse reculer les discriminations partout où elles sont, et ça nécessite effectivement de l'investissement, notamment dans les services publics, pour avoir la capacité de recevoir, d'accompagner. J'ai envie de dire, même peut-être en écoutant tout à l'heure, je disais, il faut peut-être porter cette idée auprès aussi de tous les fonctionnaires et tous les services qui existent, de la bienveillance à l'égard de ceux qui font appel aux services publics pour s'inscrire à ceci, pour s'inscrire à cela, pour demander une aide, pour demander ceci. Il faut sans doute qu'on mette plus encore en avant cette idée de bienveillance à l'égard de tous ceux qui s'adressent à nous, et pas qui s'adressent à nous au sens du service public, etc., et pas un peu, c'est peut-être un peu, compte tenu un peu des difficultés, un peu parfois de méfiance à l'égard de tous ceux qui viennent à la rencontre. Et peut-être, je me tourne vers Nadège, peut-être qu'y compris nous-mêmes à Nanterre, il faut qu'on soit vigilants et qu'on sans doute on porte ce message à l'égard de l'ensemble des services publics de la ville.
Bah, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur Radio Agora Nanterre. On remercie également nos invités ainsi que Monsieur le maire pour sa participation, sans oublier la compagnie Canopée ainsi que les interviewés, Mourad, Vouria, Abid, Nadia, Philippe, Miguel, ainsi que les habitants et usagers des centres socio-culturels. N'hésitez pas à réagir en laissant vos commentaires dans l'espace dédié et à partager cette émission autour de vous. On se retrouve très vite.
Bon, c'était passionnant, hein, putain. On dira aux producteurs de télé qu'en fait, il faut qu'ils arrêtent d'avoir des invités pourris.